Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour assister au 6e colloque de la Société française de psychanalyse intégrative. Vous m'entendez pas ? Là, vous m'entendez ? Bon, il faut que je parle bien en face de mon micro. Donc, merci à vous tous et je vous remercie au nom du conseil d'administration et de moi-même et je vous souhaite la bienvenue. Donc, je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui nous font l'honneur de venir aujourd'hui intervenir. Je remercie Laurence Croix, à ma droite, Christine Bonal, en face de moi, Christophe Ferveur, qui nous rejoindra à l'heure du déjeuner, et Yves Lefebvre, qui nous rejoindra tout à l'heure. Je les remercie de venir partager avec nous leur point de vue et leurs réflexions sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Que reste-t-il du divan, cadre, limite et créativité? Vaste programme. Je remercie aussi les membres de la SFPI qui vont nous proposer les 3 ateliers qui auront lieu en début d'après-midi. Magali Cipriani-Bouvard et Cécile Orsoni, Lou-Laurence Pelletier et Nicolas Sosson. Je remercie aussi, je vais faire que des remerciements en début. Je remercie aussi les membres du conseil d'administration, tout particulièrement actifs et engagés, ma secrétaire générale, Corinne Strutz, et tous les autres, engagés dans le développement de notre société savante et dans la préparation de ce colloque, qui n'aurait pas pu voir le jour sans leur dévouement et leur bonne humeur. Je voudrais également vous remercier tous ici, tous les membres de l'association de la SFPI, grâce à qui la SFPI reste vivante. Je vais aussi remercier mes prédécesseurs. Christine Bonal, qui m'a fait entrer à la SFPI et dont j'admire la ténacité, la loyauté et la rigueur intellectuelle. Magali Cipriani-Bouvard, dont j'ai été la secrétaire générale pendant 5 ans au sein de la SFPI et avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer sans relâche aux nombreux projets que nous avons mis sur pied pour développer les activités de notre association. Sa générosité, sa capacité à fédérer, sa finesse d'analyse et son ouverture aux sciences humaines et sociales constituent pour moi une source d'inspiration. J'ai aussi une pensée émue pour Jean-Michel Fourcade, cofondateur et premier président de la SFPI. C'est pas rhétorique, manifestement, sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, puisque mon désir d'analyste, comme disent les Lacaniens, s'est éveillé à son contact. Donc, depuis notre dernier colloque qui s'est tenu en novembre 2021, et fidèle à la pensée et à la clinique de Jean-Michel Fourcade, la SFPI a poursuivi ses activités. En réponse aux demandes que nous avions récoltées auprès de vous lors de notre dernier colloque intitulé « Sexualité et hypermodernité », nous avons proposé une première journée de rencontre autour de la clinique des violences sexuelles en mars 2023. Cette journée très riche a été l'occasion à la fois de s'informer sur l'aspect sociétal des violences sexuelles, statistiques à l'appui, son aspect légal, et d'aborder la clinique de la dissociation, enfin de réfléchir et de travailler ensemble sur notre posture de psychanalyste intégratif dans l'accompagnement des victimes des violences sexuelles. Le groupe de lecture mensuel a renouvelé son thème en 2023 en préparation du colloque et s'est penché sur la question du cadre à travers plusieurs auteurs, je ne citerai que Bleger, Donnet, Foulkes, Green. 2 ateliers se sont formés en 2023 pour réfléchir en amont toujours sur la question du cadre et proposer aujourd'hui une expérimentation auquel vous aurez la chance et le plaisir de participer lors des ateliers. La SFPI a publié chez l'Harmattan début novembre un ouvrage collectif, La psychanalyse intégrative, une pratique vivante. Cet ouvrage est né du désir, à la suite du décès de Jean-Michel Fourcade en avril 2020, de montrer comment la psychanalyse intégrative continue à avancer dans et avec notre siècle. Je remercie chacune et chacun des auteurs, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont une vingtaine, pour leur contribution à ce projet. Leur engagement est aujourd'hui enfin récompensé. Et je n'oublie pas de remercier Odile Brouet, avec laquelle j'ai travaillé sans relâche pendant pas loin de 2 ans, Et cette tâche, sans sa bonne humeur et son énergie, me serait vraiment... ça aurait été un des 12 travaux d'Hercule, je crois, sans problème. Mais bon, c'est bien passé. Notre collègue François Bidot, qui a initié le projet avec Odile, vous proposera à la vente, aux pauses, cet ouvrage, ainsi que d'ailleurs les deux ouvrages de Jean-Michel Fourcade, qui ont été édités par Christine Bonal avec le soutien de la SFPI, l'un réunissant ses articles et conférences sous le titre « Pour une psychanalyse intégrative » et l'autre ses écrits sur l'art. Par ailleurs, notre libraire, partenaire au Bonheur des Livres, vous proposera aussi des ouvrages en lien avec notre thème d'aujourd'hui, ainsi que des ouvrages de certains de nos intervenants. En 2024, nous reprendrons un cycle de conférences et proposerons une seconde journée d'études. Alors, je voudrais aussi vous parler du second ouvrage de la Société française de psychanalyse intégrative, qui est un ouvrage qui est toujours en cours, un work in progress, hein, comme disent les Anglais, sur l'histoire de la psychanalyse intégrative. Ce livre doit être... disons, fabriqués à partir des entretiens qui ont été faits avec ses principaux témoins et acteurs, dont Philippe Grauer, dont je voudrais dire juste un mot aujourd'hui. Philippe qui vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. Philippe Grauer était un infatigable défenseur de la psychothérapie relationnelle. Et Jean-Michel Fourcade disait que la psychanalyse est une forme de la psychothérapie relationnelle. Il était administrateur du SNPPSY et de la FOP. Il a été président du SNPPSY pendant près de 20 ans et compagnon de route de Jean-Michel Fourcade. Enseignant universitaire, gestaltiste, psychanalyste passionné, il laisse à sa communauté, à tous les psychopraticiens qu'il a formés depuis plus de 40 ans, aux enseignants, aux intervenants, à ses étudiants, à ceux qui l'ont côtoyé, un héritage d'exigence et d'humanité. Mais revenons à notre colloque. Donc, depuis 2011, date de la création de notre association, la SFPI a organisé 5 colloques. En 2013, quelle clinique aujourd'hui dans une société qui fragilise le sujet? En 2014, psychanalyse intégrative, dépendance et addiction. En 2016, le corps dans la clinique du sujet. En 2018, éprouver et penser le lien. Et puis, épisode Covid, le colloque suivant n'a pu avoir lieu qu'en 2021, sexualité et hypermodernité. Bon, même si les thématiques diffèrent, elles interrogent à chaque fois la complexité d'un monde en mutation et la façon dont nous autres psychanalystes intégratifs sommes amenés à considérer cette complexité, à s'y adapter éventuellement et jusqu'où. Toutes celles et tous ceux qui ont connu Jean-Michel Fourcade, que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant que thérapeute, savent à quel point la question du cadre et de son aménagement était essentielle pour lui, en particulier dans le travail avec les patients limites. Il pouvait proposer des séances individuelles en face à face, mais aussi un dispositif fauteuil-divan, la participation à un groupe hebdomadaire de thérapie, ou même associer séances individuelles hebdomadaires avec la participation à un groupe mensuel de week-end. C'est dire la souplesse, l'élasticité, pour reprendre le vocable de Ferenczi, ou encore la malléabilité de son cadre externe et interne pour accompagner ses patients au plus près, en particulier ses patients limites qui chauffent à blanc le cadre. Les invariants de la cure, selon la distinction de José Bleguer, pouvaient ainsi se réduire à quelques éléments stables, comme le règlement des honoraires, et des séances manquées, le lieu et les vacances. Je n'inclus même pas dans ces éléments stables la durée des séances, puisqu'en groupe, la durée elle-même était variable. Cette malléabilité du cadre de Jean-Michel Fourcade rejoint celle qu'évoque René Roussillon dans « Logique et archéologique du cadre analytique ». Je cite « Le cadre parfois se contente de mettre en valeur ce qu'il contient, parfois il va jusqu'à le soutenir, l'étayer, voire le mouler, lui donner sa forme même. Pour cela, il s'adapte parfois au sur-mesure, épouse la forme à contenir. Nous chercherons aujourd'hui ensemble à identifier ce que serait un cadre sur-mesure, un cadre qui ne serait ni trop lâche, ni trop étroit, Autrement dit, un cadre ni trop froid, ni trop chaud, un cadre bien tempéré, pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Jean-Luc Donnet. Un cadre qui ne serait pas aliénant pour le sujet et lui permettrait d'aller à la rencontre de son inconscient en s'appuyant sur un contrat externe circonscrit entre les deux parties engagées. Un cadre qui peut notamment s'adapter selon la problématique du patient, sa régression, le moment de la cure et la nature du transfert. Un cadre qui peut en particulier permettre de s'affranchir temporairement de l'interdit du toucher, sans oublier pour autant que son adaptabilité, sa malléabilité a ses propres limites. Nous allons débuter notre journée avec Laurence Croix, qui prendra appui sur ses recherches cliniques sur la transidentité à l'adolescence pour nous amener à nous interroger sur nos cadres de soins, les effets thérapeutiques, mais aussi sociaux, politiques et éthiques du diagnostic du DSM, dysphorie de genre. Christine Bonal nous présentera un cas clinique, celui d'une patiente à laquelle elle a proposé de changer de dispositif et de passer d'une séance hebdomadaire en face à face à deux séances par semaine allongées sur le divan. Bien sûr, comme il s'agit d'un cas clinique, ça sera un moment confidentiel. En fait, on vous demandera de pas l'enregistrer. Nous-mêmes, il ne sera pas enregistré ni retranscrit après sur notre site. Nous terminerons notre matinée avec Yves Lefebvre, qui nous interrogera sur la façon dont le cadre, comme représentant du réel dans la cure, implique la présence du social avec ses contrats, ses valeurs, ses coutumes. En début d'après-midi, 3 ateliers vous seront proposés et viendront compléter et enrichir ces interventions et nous permettre d'échanger, d'expérimenter, d'approfondir nos questionnements autour du cadre. Si vous n'avez pas encore choisi d'atelier, vous pourrez vous rapprocher de nous à la pause de ce matin qui est prévue après l'intervention d'Yves Lefebvre. Avant, pardon, son intervention, autour de 11h30. Donc je vous présente rapidement les trois cadres et puis après on commence cette journée. Les trois cadres, c'est les trois ateliers d'expérimentation du cadre, absolument. Donc Magali Cipriani Bouvard et Cécile Orsoni nous proposeront d'explorer et de donner forme à notre cadre externe et interne de manière créative et d'en explorer les limites. L'atelier proposé par Lou Laurence Pelletier nous permettra de nous interroger sur la façon dont la psychanalyse intégrative peut offrir un cadre adapté au contexte contemporain socio-psychique mouvant pour apporter de nouveaux équilibres en alliant stabilité et souplesse. Enfin, l'atelier proposé par Nicolas Sausson nous amènera à questionner notre adaptabilité de psychanalyste intégratif et à pouvoir statuer sur cette question en forme de provocation. À force de nous adapter, sommes-nous devenus des psychanalystes limites ? Nous nous retrouverons après les ateliers pour la dernière intervention de la journée. Christophe Ferveur questionnera la sommation faite au cadre psychanalytique classique de s'adapter aux situations cliniques de notre temps et sur notre capacité à tenir bon, sur l'idée de symptômes sur mesure, face au succès grandissant de la notion de trouble prêt à porter. Je me réjouis d'avance de ces échanges et vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque.